Radio Okapi.
Les informations, Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information sur Radio Okapi. Ravi de vous retrouver, voici les principaux titres qui font l'actualité ce soir. Jean-Pierre Lacroix en visite à Beni pour renforcer les efforts de paix et de stabilisation. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix échange avec les autorités locales et les communautés affectées. Il alerte sur les défis rencontrés par la MONUSCO dans les zones sous occupation armée. Lancement d'un vaste projet de reboisement sur l'axe Kassindi-Beni. La mutuelle pour le développement populaire prévoit la planification de plus de 10 000 arbres pour lutter contre l'érosion et le glissement de terrain en appui aux travaux de réhabilitation routière initiés par le gouvernement provincial. Invité du journal, le docteur Aimé Eyane, député provincial du territoire d'Opala. Dans le cadre de vacances parlementaires, l'élu revient sur les défis du développement local et le faible taux d'exécution du programme national de 145 territoires dans sa circonscription. Ouverture de ce journal avec la rencontre de chef d'État à Malabo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce dimanche matin à Malabo, en Guinée équatoriale, pour participer à la 7e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC. Au cœur des discussions, la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, une priorité régionale qui mobilise l'attention des dirigeants. Ces sommets vise également à prendre des décisions majeures pour améliorer la gouvernance de l'organisation et répondre aux défis urgents qui touchent l'Afrique centrale. Autre sujet à suivre dans ce journal, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix est en mission à Beni, capitale provisoire de la province du Nord Kivu. Au programme de son séjour, des rencontres avec les autorités locales, le représentant de la MONUSCO ainsi que des échanges avec les communautés affectées par l'insécurité persistante dans la région. Cette visite s'inscrit dans un contexte marqué par les efforts de stabilisation et des transitions en cours dans l'Est de la RDC. Éclairage avec Jean Gandou Kabongo.
L'étape de Beni est la dernière et marque la fin de la visite de Jean-Pierre Lacroix en RDC où il est arrivé depuis le 3 septembre dernier. Sur place, il a rencontré les responsables locaux de la MONUSCO, le gouverneur du Nord Kivu ainsi que le membre du comité provincial de sécurité. Par la suite, il a animé une conférence de presse. Avec les professionnels des médias, il est revenu sur les différentes rencontres qu'il a eues avec les autorités congolaises, entre autres la première ministre et le président de la République. Il a évoqué également les discussions avec les membres de l'opposition politique. Jean-Pierre Lacroix a aussi salué la collaboration entre les FRDC et les casquets bleus qui s'est traduit notamment par les opérations conjointes pour la protection des civils. Il s'est aussi réjoui des processus de Washington et de Doha.
Sur le plan politique, encore une fois, il y a une responsabilité de notre côté à alerter sur le fait qu'il ne faut pas s'arrêter aux déclarations et aux résolutions. Il faut que l'effort diplomatique qui doit passer par toutes les mesures, incitations, j'hésite à utiliser le mot pression, mais après tout, pression aussi, tout ça doit être fait pour qu'il y ait ensuite des résultats concrets sur le terrain, diminution de la violence, avec, je crois, une importance toute particulière à accorder à la nécessité d'un cessez-le-feu, parce qu'il est difficile d'avancer ensuite vers la paix s'il n'y a pas de cessez-le-feu.
Notons que la dernière visite de Jean-Pierre Lacroix en République démocratique du Congo remonte au mois de mars dernier.
Lors de la conférence de presse qu'il a tenue à Beni, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, s'est exprimé sur le nombreux défis auxquels fait face le personnel de la MONUSCO dans les zones encore sous occupation armée. Écoutez un extrait de son intervention sélectionné pour vous par Jean Gandou Kabongo.
Nous avons dans la zone occupée actuellement par le M23 et les forces rwandaises des difficultés supplémentaires liées aux restrictions qui sont imposées à nos collègues de la MONUSCO, restrictions de liberté de mouvement, restrictions au titre de la fourniture de ce qui permet à nos collègues de subsister, produits de fourneau, d'électricité, des pressions qui sont inacceptables et que nous devons à tout prix alléger. Des restrictions au niveau du passage il y a des personnes à la frontière, Zetoma, Isani, etc., etc. Et donc, notre intention, c'est de faire tout ce qui sera possible de faire pour lever ces restrictions. Nous appelons à la coopération de tous pour que cela se réalise. Sans que je l'ai abordé, évidemment, avec les autorités congolaises qui m'ont indiqué qu'elles souhaitaient que nous restions dans toute la mesure du possible présents à Goma pour jouer le rôle que nous pouvons jouer sur place conformément à notre mandat.
Et puis, dans ce journal également, le gouvernement provincial du Sud-Kivu lance une alerte à l'attention de l'opinion nationale et internationale concernant le renforcement des troupes rwandaises dans les territoires d'Ijwi. Dans un communiqué publié vendredi 5 septembre, le porte-parole du gouvernement évoque l'arrivée de 750 soldats rwandais via la piste de Moussoko. René Lintibonera nous apporte les détails.
Tout a commencé dans la nuit du 3 septembre 2025 lorsque deux bateaux et des hors-bord remplis de soldats ont accosté dans la zone selon des sources locales. Munis de munitions et d'armes à feu, ces troupes ont procédé à l'arrestation des pêcheurs et des personnes témoins de leur débarquement. Toujours selon les mêmes sources, ces militaires ont pris la direction de Mugote pour rejoindre un autre contingent déjà déployé dans la région. Par la même occasion, le porte-parole du gouvernement provincial du Sud-Kivu, Didier Kabi, dénonce au-delà de ces renforcements des troupes, le début de la construction d'un camp de la police rwandaise à Bwando. Bwando est une localité située dans le groupement des Mugote à Ijwi. Il indique que ce camp en construction se trouve en face de Kibuye, une ville rwandaise appartenant au district de Karongi. Didier Kabi dénonce cette nouvelle violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Il soupçonne Kigali de vouloir annexer une partie de la RDC en se cachant derrière le M23. Face à ce qu'il qualifie d'acte d'agression, il en appelle à la communauté internationale pour constater cette nouvelle escalade. Pour lui, l'urgence s'impose pour mettre fin à cette politique d'occupation déguisée, déclare-t-il à travers un communiqué. Selon plusieurs sources, ce renforcement des troupes fait suite à deux autres mouvements similaires observés, notamment à Walungu, au sud Kivu, ainsi qu'à Masisi et Walikale, au nord Kivu, concernant les troupes de la rébellion.
Autre fait marquant de ce jour à Kasindi Lubiria, la mutuelle pour le développement populaire lance une ambitieuse opération de reboisement le long de l'axe routier Kasindi Beni. Plus de 10 000 arbres seront plantés, des sols, des chênes et de peupliers, des essences reconnues pour leur rôle dans la lutte contre les glissements de terrain et l'érosion des sols. Ce projet environnemental vient en appui aux travaux de réhabilitation de cette route engagée par le gouvernement provincial dans une zone particulièrement vulnérable aux risques géologiques. Le coordonnateur de l'organisation Manix Mbavuga s'est confié à Marc Marofimo lors d'un entretien téléphonique.
Nous nous sommes fixés l'objectif de voir comment appuyer désormais les actions de développement de son excellence, monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu, dans les projets ou dans les activités d'assainissement et de reboisement, en fait de préserver une bonne image des infrastructures routières qui sont en pleine réhabilitation, partant de la cité frontalière de Kasindi en allant vers Beni. Vous allez comprendre que la cité frontalière de Kasindi, elle est juste une cité pilote, une cité stratégique qui représente la portée du pays. Quant à ça, notre organisation s'est fixée une fois l'objectif de voir comment appuyer ces actions dans des activités de sensibilisation et d'éveil de conscience communautaire dans le secteur de l'assainissement et autres. C'est pourquoi nous appelons la communauté à mettre en place un slogan, à dire combien de fois nous tous agissons tous ensemble pour combattre et éradiquer les déchets plastiques, car notre avenir a dépend.
Restons à Beni où la journée internationale de la charité a été célébrée le vendredi 5 septembre. À cette occasion, une centaine de femmes, membres du collectif des associations féminines, ont été sensibilisées à leur rôle dans les actions caritatives. L'initiative portée par l'ONG féminine Tendolaro visait à encourager ces femmes à devenir des modèles de solidarité au sein de leur communauté. Tête vêtue de blanc, elles ont marqué cette journée par une méditation collective au siège de l'organisation. Ange Maliro Masika, chargé de communication des Tendolaro, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Chez nous, on dit qu'il est bon de donner que de recevoir. Donc, on se sent vraiment à l'aise quand on est en train de servir les autres ou on est en train d'aider les autres. Et c'est ça la charité. Donc, même si on n'a pas les moyens financiers ou les objets à partager, nous, on partage même les connaissances, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par les changements de comportement. Vous pouvez avoir de l'argent, mais sa connaissance, ça peut arriver à ne pas vous servir correctement. Maintenant, nous, on va avec la sensibilisation et nous savons que ça va aboutir parce que peu à peu, il y a des changements de comportement qui s'affichent par-ci, par-là et ça, là, nous sentons que l'effet de ce que nous faisons est en train de se faire voir. Il y a peut-être quelqu'un qui est à côté de toi, il a seulement besoin d'une attention, pas seulement l'argent. Peut-être qu'il a besoin de se sentir aimé, de se sentir qu'il est aussi un être humain, il est à côté de toi.
Sur le plan sécuritaire, la ville de Kisangani, dans la province de la Tshopo, est confrontée à une recrudescence de l'insécurité ces derniers temps. Le crépitement d'armes à feu, les cas de vol à main armée et les actes de violence, y compris de meurtres, sont rapportés quasi quotidiennement. Dans la soirée de jeudi à vendredi, entre 19h et 20h, un prêtre de l'église catholique a été violemment agressé par des individus armés non identifiés, grièvement blessé à la cuisse. Il a été admis dans une structure sanitaire locale pour recevoir des soins appropriés. La population boyomaise vit désormais dans une inquiétude permanente face à une situation sécuritaire de plus en plus préoccupante. Les explications avec Jacques Mukonkole.
L'abbé Jean-Paul Yailo, curé de la paroisse Saint-Jean de Loa en territoire d'Ubundu, a été attaqué aux environs de la radio-télévision Canal Orient. Les assaillants armés de fusils lui ont ravi son sac contenant de l'argent, un ordinateur portable et des téléphones. Avant de s'en aller, ils lui ont tiré des balles à la cuisse et l'ont abandonné gisant dans le sang. Cependant, ils n'ont pas emporté son engin, eux-mêmes roulant à bord d'une moto et d'une jeep, selon des témoins. Cet acte vient s'ajouter à bien d'autres commis ces derniers temps dans la ville. Le 29 août dernier, un cambiste a succombé à ses blessures le lendemain de son attaque par des hommes armés vers 20h dans son shop. Au regard de la récurrence des actes de criminalité, le cadre de concertation de la société civile a publié un communiqué fustigeant les sécurités tant dans la ville qu'à l'intérieur de la province. Alphonse Longongo appelle les autorités à assumer leurs responsabilités afin de sécuriser la population et ses biens. Tout en affichant son regret, le maire de la ville se dit interpellé avec tous les services de sécurité. Ils doivent changer de méthode afin de démanteler ce réseau d'infiltrés, dit-il. En même temps, il exhorte la population à la vigilance, tous azimuts. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La police nationale a interpellé 145 personnes lors d'une opération de bouclage menée dans la nuit de vendredi à samedi à Lubumbashi. L'intervention s'est déroulée dans le quartier Tchansasa, commune de Lubumbashi, ainsi que Tchamilemba et Congo, commune de Nkampemba. Selon les autorités policières, les personnes arrêtées sont soupçonnées d'implication dans diverses activités criminelles. L'opération a permis la saisie de plusieurs armes blanches. Parmi les interpellés figurent également des individus accusés de produire des saucissons à base de viande de chien et de chat, ainsi que des fabricants des boissons fortement alcoolisées. Cette opération a été supervisée par le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. L'ONATRA presse le gouvernement. Le président de l'intersyndicale de l'Office national de transport, Armand Ossassi, appelle le gouvernement à concrétiser sa promesse d'intégrer le transport fluvial et ferroviaire dans la gestion du trafic urbain à Kinshasa. Lors d'un point de presse tenu ce samedi dans la capitale, il a réitéré la demande de l'ONATRA pour l'acquisition de trains urbains et des taxis fluviaux conformément au plan d'urgence proposé par l'entreprise. Les propos d'Armand Ossassi ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons le directeur. Avec l'ONATRA, dans 3 mois, on va mettre fin avec le système des embouteillages. Parce qu'aujourd'hui, circuler devient un grand problème. Nous avons besoin de 100 millions. Parce que nous avons un programme achat au moins de 6 trains pour la ville de Kinshasa. Ligne Kitambo, ligne Massina, ligne Matete. Aussi, achat de 28 taxis fluviaux. 20 de la gare fluviale jusqu'à Maluku. De la gare fluviale jusqu'à Kitambo 5. Et c'est pour nous conformer aux institutions du président de la République. Mais ici, nous sommes bloqués par le gouvernement. C'est donc, nous sollicitons à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de convoquer une réunion tripartite, évaluer les recommandations issues du 11 juillet 2023 du Palais de la Nation, qui jusqu'aujourd'hui non exécutées. Et donc, avec l'ONATRA, nous sommes prêts.
Armand Ossassé, président de l'intersyndicale de l'ONATRA, souligne également la nécessité d'entretenir l'ensemble de voies ferrées menant à la gare centrale de Kinshasa.
Actualité internationale.
Au Mali, plusieurs attaques et blocages ont été signalés samedi 6 septembre. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM, affilié à Al-Qaïda, poursuit le blocus imposé sur les villes des Kaï et Nioro du Salé, dans le sud-ouest du pays. À Sikasso, trois camions citernes ont été incendiés, tandis que la circulation a été brièvement bloquée entre Zantiguila et Kassela. Près de Bamako, l'attaque la plus marquante a eu lieu à Mopti, au centre du pays, où les djihadistes à moto ont ouvert le feu sur un commissariat. Deux personnes ont été tuées, une troisième est grièvement blessée. Les assaillants ont traversé la ville avant de se replier après des échanges de tirs avec les forces de sécurité. Le JNIM a également diffusé une vidéo réitérant ses menaces et affirmant vouloir empêcher l'importation des carburants sur tous les territoires maliens. Ni l'armée malienne, ni les autorités de transition n'ont réagi publiquement à ces événements.
L'invité.
Dans les territoires d'Opale, à plus de 260 km au sud-ouest de Kisangani, les infrastructures peinent à se développer. Le programme national de développement de 145 territoires n'y progresse que timidement, avec un taux de réalisation estimé à environ 30% selon les constats du député provincial Dr Aimé Eyane, de retour dans sa circonscription dans le cadre des vacances parlementaires. Pour en savoir davantage sur cette situation, nous les recevons dans ce journal. Ils s'entretiennent avec Jacques Moukonkole.
Docteur Aimé Eyane, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous revenez de votre circonscription électorale d'Opala. Quels sont les grands problèmes auxquels la population de cette entité fait face?
Les principales difficultés, c'est notamment les problèmes de route. On a un problème d'inaccessibilité par voie routière. Et là, heureusement que le président de la République a écouté nos plaidoyers. Il a autoriser le financement de la route nationale numéro 7 et qui va de Kisangani à Otala en passant par Opala. Et donc ça, c'est vraiment le principal facteur qui fait que Opala ne sait pas se développer, parce que il n'y a pas de route.
Qu'en est-il d'autres infrastructures de base?
L'accès aux soins reste un sérieux problème. Il n'y a pas de centre de santé bien construit, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de médicaments au niveau des centres de santé. Et ça fait que quand une population n'est pas en bonne santé, elle ne sait pas bien produire, elle ne sait pas bien travailler. Mais les défis sont énormes et je ne peux pas m'étaler sur tout.
Par rapport à cette route d'Opala, est-ce qu'elle peut être rentable au cas où elle serait réhabilitée?
Mais vous savez que Opala, c'est parmi les territoires greniers de cette province. C'est nous qui produisons du riz, chez nous, du manioc, et qui est consommé ici. Et si vous allez sur les marchés ici, la plupart des mamans demandent toujours les riz d'Opala. Donc nous sommes un peuple producteur et c'est une route d'ailleurs d'importance nationale, parce qu'elle va jusqu'à Kinshasa. Donc elle va aider également à désenclaver la Choapa qui est fortement enclavée.
Vous déplorez le manque d'infrastructures. Opala n'a-t-il pas bénéficié du programme de 145 territoires comme partout ailleurs?
Nous avons bénéficié, dans le cadre du projet 145 territoires, de quelques infrastructures, mais il faut dire que c'est réalisé à près de 30%. Et la plupart d'infrastructures n'ont même pas été construites. Les ciments ont été détournés par endroits et la plupart des infrastructures n'ont pas été construites. Ce que moi-même j'ai vu un centre de santé de la Lomami qui a été finalisé, le bureau administratif du territoire, ainsi que quelques centres de santé par endroit, comme à une école à Omongo, à près de 60 km, une autre école à 18 km à l'Etutu Simbele. Mais en tout cas, la plupart des projets sont soit inachevés, soit non réalisés.
Quelle serait la cause de cet état des choses?
Il faut dire que certains entrepreneurs qui avaient gagné le marché, ils sont même pas arrivés sur le terrain. Ils ont sous-traité des marchés à des tierces et les travaux n'avaient même pas été exécutés.
En tant que fils du terroir, qu'avez-vous fait pour soulager un tant soit peu la souffrance de vos électeurs?
Bon, messieurs les journalistes, moi en tant que député, il ne me revient pas de poser des actions comme si j'étais un exécutif. Donc, les gestes que posent les députés, c'est, on appelle ça les gestes de générosité. Donc, c'est pour soulager tant soit peu la misère de ses compatriotes. C'est dans ce cadre-là que moi j'avais distribué près de 1000 tôles à 30 centres de santé pour que des centres de santé qui sont en pisé, qui aient des tôles, et j'ai donné également quelques presse-briques pour qu'on puisse quand même construire des bâtiments en matériaux durables.
De toutes les actions à mener dans l'urgence, quelles seraient selon vous les priorités?
Je vais me battre à ce que qu'on inscrive la réhabilitation des routes de dessertes agricoles dans le budget de la province et que qu'on puisse aussi renforcer l'autorité de l'État. Dans certains endroits, même secteur ou chefferie chez nous, il n'y a aucun policier. Soit que tu trouves un policier, mais il n'a pas d'armes, il n'a qu'une matraque. C'est un sérieux problème. Donc nous devons vraiment renforcer les plaidoyers pour qu'on puisse renforcer l'autorité de l'État et qu'on puisse réhabiliter les routes des dessertes agricoles. Au-delà du fait que les structures de santé n'ont pas de médicaments, on devra également les approvisionner en médicaments de qualité.
Docteur Aimé Eyane, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Docteur Aimé Eyane, député provincial de la Tchopo, s'exprimait sur les défis infrastructurels dans les territoires d'Opala dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage, à la mise en onde Billy Landry Betou, coordination éditoriale Jude Mystère Bilanda. Merci pour votre fidélité. L'actualité se poursuit sur Radio Okapi et sur nos plateformes numérique. Très bonne soirée à toutes et à tous.